vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Skull and Bones. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Marvel Spider-Man 2, une news technologie ensuite avec l'Apple Vision Pro qui fait polémique et qui est plus dangereux qu'on ne le pense, et on finira avec les trois petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Skull and Bones. Donc c'est un jeu vidéo d'action-aventure qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par Elisabeth Pellen, développé par le studio Ubisoft Singapour et édité par Ubisoft. Il est sorti le 16 février 2024 sur Microsoft Windows, Xbox Series, PlayStation 5 et Amazon Luna. Donc nous sommes dans l'âge d'or de la piraterie, dans une époque où des capitaines renégats sont à la tête des plus puissantes flottes navales de guerre. Vous incarnez un capitaine pirate débutant et cupide, parti naviguer des Caraïbes à l'océan Indien. Pour réussir à devenir le pirate ultime, vous devrez construire une flotte de vaisseaux, éliminer vos rivaux, attaquer les routes, ou peut-être déciderez-vous de vous allier aux plus influents afin d'assouvir votre suprématie. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 15 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 60 sur 100 sur Metacritic. Donc la traversée du désert s'achève enfin pour Skull and Bones. Après une décennie de développement, 6 reports et même un reboot, le jeu monstre d'Ubisoft Singapour a enfin vu le jour le 16 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et donc, à quoi peut-il bien ressembler ce titre dont la gestation fut aussi longue? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Donc déjà, c'est quoi Skull and Bones? Donc ce n'est pas un bête clone de Sea of Thieves, le fameux jeu de pirates de Rare et de Xbox. Ici, on évolue bien dans un environnement multijoueur humide comme pas deux, avec une connexion internet obligatoire, mais vous êtes le seul capitaine à bord. Autrement dit, votre navire vous répond au doigt et à l'œil et vous n'avez pas besoin de trois paires de bras pour lever l'ancre, hisser la voile ou armer les canons. C'est la même chose si d'autres moussaillons vous rejoignent. Skull and Bones vous permet d'avoir jusqu'à deux copains à vos côtés et ainsi parcourir les sept mers de l'océan Indien par flotte de trois. Donc je reparlerai du multijoueur dans un second temps, mais pour l'instant retenez que Skull and Bones mise avant tout sur les phases d'action à bord de Rafio, au point qu'on serait plus tenté de parler de jeux de bataille navale online que de vrais jeux de pirates. En fait, à l'exception des deux villes principales et d'une trentaine d'avant-postes où votre héros peut se dégourdir les jambes, donc c'est-à-dire marcher et discuter, tout se déroule sur les flots. Il n'y a pas d'affrontement à la troisième personne, y compris quand vous abordez un navire, puisqu'une cinématique prend le relais. Vous ne pouvez pas non plus nager, donc ça pourra en décevoir certains, mais une fois passé l'effet de surprise, on s'y habitue sans problème. Donc à ce stade, j'en profite pour rappeler que Skull and Bones est un jeu service et en tant que tel, il mise à fond sur les objets légendaires et les cosmétiques. Il y a largement de quoi faire pour personnaliser l'apparence de votre pirate et de votre navire. On note aussi la présence d'achats in-game pour débloquer davantage de skins. Donc à la décharge d'Ubisoft, la boutique se fait discrète et apparaît seulement dans le menu pause. Qui plus est, les objets mis en vente sont seulement cosmétiques et ne donnent aucun avantage de puissance, du moins pas au lancement du titre. Autre différence avec Sea of Thieves, Skull and Bones se veut beaucoup moins sandbox et dispose d'une trame narrative assez présente. Ici, après une petite introduction, vous débarquez dans la ville de Sainte-Anne, repère de pirates bien connus où vous ferez la rencontre de John Skurlock, un vieux loup de mer à la recherche d'un allié de confiance. C'est ainsi que commencera votre longue quête pour atteindre le rang de Kingpin, qui débloque l'accès au endgame et donc devenir le roi des pirates. Après quelques heures, vous pouvez tout à fait naviguer dans votre coin et accomplir les nombreux contrats que propose Skull and Bones. Gardez juste à l'esprit que les objectifs principaux rapportent plus d'expérience et de meilleures pièces d'équipement pour votre vaisseau. En revanche, ne vous attendez pas à un scénario renversant. L'écriture d'Ubisoft peine à investir le joueur et on se trouve plus rapidement intéressé par le loot que par ce qu'on cherche à nous conter. C'est là aussi que les mécaniques de Skull and Bones se heurtent à l'appellation « jeu de pirate ». Donc oui, même avec les meilleurs prétextes du monde, à base de trahison et d'intérêts mercantiles, on termine toujours par tirer encore et encore sur des rafios, ce qui n'en fait pas une mauvaise expérience pour autant. Car le peu que fait Skull and Bones, il le fait bien. On apprécie particulièrement les batailles navales, à la fois prenantes et dynamiques. Donc sur ce point, Ubisoft reprend presque à la lettre le gameplay d'Assassin's Creed Black Flag. Comme à l'époque, il suffit de déplacer la caméra et de jouer avec les gâchettes pour faire appel aux diverses armes du bateau. Ça marche toujours aussi bien et ça va comme un gant à la dimension action de Skull and Bones. On remarque d'ailleurs une physique plus lourde et réaliste que sur ce cher Black Flag, avec des déplacements de navires et des trajectoires de boulets de canon plutôt exigeants. En combat, en marge du niveau de puissance générale de votre embarcation, c'est votre savoir-faire à la barre qui fera la différence, et ça, c'est vraiment agréable. Pour faire sombrer des vaisseaux plus puissants que vous, il faut savoir gérer son endurance, qui permet à votre bicoque de sprinter et d'activer un bouclier super résistant, ainsi que faire preuve de précision. Les rafios adverses ont des points faibles qui sont en surbrillance au rouge. Donc l'un dans l'autre, même avec 30 heures de jeu dans les jambes, c'est toujours excitant de repérer un ennemi de niveau égal ou plus à la longue vue, puis de lancer l'assaut. C'est sans doute là que la rencontre entre l'ambiance sonore qui est super réussie, la technique robuste et les angles de caméra dynamique se fait la plus savoureuse. Bref, les batailles navales, c'est-à-dire le cœur de Skull and Bones, sont une franche réussite. C'est encore plus prenant en PVP, mais notez que le mode joueur contre joueur prend seulement de l'ampleur à partir du endgame, donc il faut compter 20 à 25 heures pour l'atteindre. On jette l'ancre 2 minutes pour saluer la technique de Skull and Bones qui utilise le moteur maison Anvil d'Ubisoft, donc celui des Assassin's Creed. En mode qualité sur PS5, autant dire que c'est du solide. À part les visages de certains PNJ, les 7 mers de l'océan Indien bénéficient d'une réalisation détaillée avec de beaux effets de lumière, des vagues convaincantes et même une direction artistique qui force le respect. L'un dans l'autre, le monde de Skull and Bones est franchement contemplatif. En qualité, on a le droit à du 30 images par seconde, avec quelques chutes si on dégaine une arme en pleine tempête. Le mode performance offre de son côté du 60 FPS, mais avec des visuels moins impressionnants. J'en profite aussi pour vous dire que même en tant que roi des pirates, vous ne pourrez pas ouvrir le feu sur n'importe quelle bicoque auréolée d'un pseudo. Au lancement, quand vous voguez sur les mers d'Ubisoft, il n'y a pas de statut PVP à activer ou à désactiver. Ce mode est pour l'instant restreint à des événements mondiaux qui apparaissent régulièrement sur la carte. Au contraire, c'est plus un air de franche camaraderie qui règne dans Skull and Bones. Pendant vos longues heures en mer, vous pourrez être rejoint par d'autres moussaillons en chair et en os au moment d'attaquer un boss ou de vider les caisses d'une ville. Cela semble un peu contradictoire pour un jeu de pirates, mais ça permet de se sortir de situations compliquées. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu, c'est Rogue Waves composé par Tom Holkenborg, et on revient juste après. Donc c'était la musique Rogue Waves composée par Tom Holkenborg et extraite de l'OST du jeu Skull and Bones. On va donc continuer avec la deuxième partie de ce test. Donc avec le recul, on regrette l'absence quasi totale de PVP au début de l'aventure, ce qui aurait permis de donner un coup de fouet à la progression jusqu'au rang Kingpin. Car la profusion de contrats rend l'aventure Skull and Bones pas mal redondante. On va systématiquement d'un point A à un point B pour défoncer du navire, rassembler des ressources ou attaquer un point d'intérêt. Heureusement, l'ambiance des sept mers, les batailles navales, les World Events en chemin renouvellent l'ensemble. Mais au global, ça manque d'un certain parfum de mystère. Rares ont été les sous-intrigues qui nous poussent vraiment à sortir de notre petite routine, même si on sent qu'Ubisoft a fait des efforts en la matière. Skull and Bones peine à chatouiller notre imaginaire, tout simplement parce qu'il montre rapidement ses limites dans le domaine. Par exemple, les cartes au trésor. Il faut bien faire preuve d'observation pour trouver l'île griffonnée sur le plan, mais dès qu'on pose un orteil sur le bon caillou, le titre vous balance texto « Un coffre se cache ici ». On a franchement du mal à comprendre ce choix, car une fois qu'on sait avec certitude que le butin est dans les parages, eh bien le mystère s'évanouit aussitôt. C'est un peu la même chose pour les avant-postes. Après quelques escales, on sait pertinemment qu'on va tomber sur les mêmes interactions, à savoir un feu de camp dédié à la cuisine, une source d'eau claire, un marchand et quelques documents à lire. Vous n'y trouverez jamais de temple avec une série d'énigmes et un coffre au bout, ou de PNJ loufoque qui vous confie une rumeur excitante. C'est un petit crève-cœur parce que l'ambiance des avant-postes est chaque fois vraiment réussie. Donc finalement, ce n'est pas le goût du mystère qui vous fera avancer dans Skull and Bones, mais plutôt celui de la poudre à canon. Car oui, c'est avant tout l'amélioration de notre bateau qui sert de moteur à la progression. Et de ce côté-là, Ubisoft a fait du beau boulot. Pour ce lancement, le titre propose 9 rafios répartis en 3 classes, ainsi que 9 types d'armes distincts. Chaque arme profite de son petit gameplay bien à lui, donc on a par exemple les torpilles puissantes et qui demandent de bien anticiper la trajectoire de l'adversaire, les canons longs pratiques pour sniper un point faible mais qui mettent longtemps à se recharger, ou le mortier pour faire tomber un obus dévastateur sur l'ennemi. On apprécie de naviguer entre ces options et de trouver notre propre équilibre, et à 3 joueurs en coopération, il est tout à fait possible de mettre au point une flotte complémentaire. Le seul bémol, c'est que c'est laborieux d'obtenir des armes et des navires de plus en plus robustes. S'il y a bien des quêtes qui offrent des pièces d'équipement intéressantes, le reste du temps, il faut réunir 3 conditions. Avoir le bon niveau d'expérience, le schéma correspondant à l'item qui vous intéresse, et les bonnes ressources pour le construire. Réunir le schéma et les bonnes ressources est souvent synonyme d'aller-retour à droite à gauche ou claquer une fortune en déplacement rapide. Une ou deux fois ça va, mais quand vous répétez l'opération pour plein d'objets, ça devient un peu beaucoup. Malgré tout, c'est à terme toujours satisfaisant de prendre le large avec une embarcation flambant neuve. Et heureusement, il existe plusieurs manières d'obtenir des ressources. Vous pouvez soit les acheter, soit les récolter à la main, soit les dérober par la force. Cette course à la puissance vous sera surtout utile au endgame face à d'autres pirates. Mais avant votre couronnement en tant que Kingpin, parlons du multijoueur dans son ensemble. En marge d'un mode coopération un peu décevant qui dévoile seulement son potentiel lorsque plusieurs joueurs à level équivalent s'attaquent à un défi commun, le jeu service d'Ubisoft est régi par des événements mondiaux qui apparaissent régulièrement sur la carte. Avant le endgame, il y en a 3, un premier qui pousse les loups de mer à collaborer pour faire couler un boss, un deuxième où il faut shipper une cargaison bien gardée, et puis chasse à la cargaison de coupe-gorge, du PVP où il faut récupérer une carte au trésor et la livrer sur une île. Donc pas grand chose à dire sur le sujet, c'est classique et plutôt agréable à faire, même si on ne rencontre pas beaucoup de résistance dans le cadre de chasse à la cargaison de coupe-gorge. Notez qu'en terminant 2 quêtes annexes, vous serez aussi amené à combattre un monstre marin et un navire fantôme. Mais le gros morceau en matière de multijoueur, c'est sans aucun doute le endgame. Donc la fin de partie de Skull and Bones vous propose ainsi de gérer votre propre empire commercial via la timonerie, un système de contrebande que vous déverrouillerez dès le niveau 5. À la base, il est seulement question d'acheter des matières premières, de les transformer en rhum ou en opium, puis de les livrer, mais en tant que Kingpin, vous pouvez prendre le contrôle de points d'intérêt sur la map pour créer de la richesse sans lever le petit doigt. Le truc intéressant, c'est que le contrôle de ces points d'intérêt passe par des phases PVPVE, donc on a des joueurs réels et des bateaux qui sont contrôlés par l'ordinateur. La victoire est donnée à celui qui réalise le plus de dégâts. Ce n'est donc pas forcément évident d'arriver à ses fins, et ça encourage à peaufiner son embarcation à l'extrême. Mais ce n'est pas fini, parce que dès lors qu'un point d'intérêt vous appartient et qu'il est prêt à vous remplir les poches, il faut encore aller récolter le butin. Là, pour le coup, c'est vous qui devrez vous y coller, mais c'est aussi un moment où le PVP est activé et où d'autres joueurs peuvent venir vous couler et voler votre or. L'idée, c'est donc de choisir avec soin vos points d'intérêt et de tracer une route commerciale la plus sûre et rentable possible. C'est d'ailleurs à ce moment que la coopération avec deux autres amis qui peuvent vous escorter peut s'avérer décisive. À terme, vous récolterez ainsi une monnaie spéciale pour acheter des objets légendaires. Donc en gros, le concept du endgame est très prenant et on a vraiment l'impression de découvrir Skull and Bones sous un nouveau jour. C'est peut-être juste un peu dommage de devoir investir 20 à 25 heures pour y arriver, mais ça vaut le coup. Donc pour résumer les points forts, on a les batailles navales qui sont très réussies, le plaisir de voir grandir son navire, le endgame qui est vraiment un gros plus, une réalisation solide avec les visuels et le son, et il est toujours grisant de prendre le large. Pour les points faibles, on a une route jusqu'au endgame qui est répétitive, un parfum de mystère trop en retrait, la trame principale qui peine à investir, et des bugs d'interface et de mission. Voilà, donc c'est ce qui termine le test de Skull and Bones. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu, c'est Reign of Fire de Tom Holkenborg, et on revient juste après. Donc c'était Reign of Fire, composé par Tom Holkenborg, une musique extraite de l'OST du jeu Skull and Bones. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top PlayStation 5. On a en 5ème place Banishers Ghosts of the New Eden sur PS5, un jeu de Focus Entertainment. En 4ème place, on a EA Sports FC 24 sur PS5, un jeu d'Electronic Arts. En 3ème place, c'est Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, c'est Skull and Bones sur PS5, un jeu d'Ubisoft. Et en première place, c'est Mario vs Donkey Kong sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la Nintendo Switch, on a donc en troisième place Mario Kart 8 Deluxe, en deuxième place Super Mario Bros. Wonder et en première place Mario vs Donkey Kong. Pour la Xbox Series, on a en troisième place EA Sports FC 24, en deuxième place Banishers Ghost of the New Eden et en première place Skull and Bones. Pour la PS4, on a en troisième place Hogwarts Legacy, en deuxième place Call of Duty Modern Warfare 3 à l'édition CrossGen et en première place EA Sports FC 24. Pour la Xbox One, on a en troisième place The Crew Motorfest, en deuxième place Grand Theft Auto 5 l'édition Premium et en première place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place EA Sports FC 24, en deuxième place Minecraft Java and Bedrock, et en première place Microsoft Flight Simulator, l'édition Deluxe Premium. On passe maintenant à la news jeux vidéo, donc avis aux joueurs PlayStation. Insomniac Games s'apprête à apporter de nombreuses nouveautés à la dernière aventure vidéoludique de l'homme araignée. De nouvelles tenues, plusieurs options d'accessibilité ainsi qu'un mode de jeu très réclamé sont prévues pour le début du mois de mars. Donc Insomniac Games prépare du très bon en ce début d'année 2024 pour les joueurs de Marvel Spider-Man 2. Le studio leur réserve en effet une mise à jour de contenu importante comprenant avant tout plusieurs tenues inédites pour Miles Morales et Peter Parker. Pour commencer, les joueurs auront droit sans surcoût à deux tenues inspirées par le scénario Hellfire Gala et pensées par le dessinateur Bernard Chang. Mais ce n'est pas tout. Insomniac Games a aussi décidé de proposer deux tenues supplémentaires conçues en partenariat avec Game Aids, donc un programme éducatif destiné aux jeunes issus d'un milieu modeste qui souhaitent rejoindre l'industrie du jeu vidéo. Avec leur design résolument rétro, ces deux tenues baptisées Fly and Fresh seront vendues au tarif de 4,99€ du 7 mars au 5 avril. Donc durant cette période, l'argent récolté par Sony sera ensuite reversé à Game Aids à hauteur $1 million. Les tenues Fly and Fresh seront ensuite proposées gratuitement. Et Insomniac Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au-delà de ces différentes tenues, le studio compte aussi implémenter prochainement plusieurs options d'accessibilité. Les joueurs auront bientôt droit à des options d'audio-description et de lecteur d'écran. De plus, la nouveauté majeure de cette mise à jour de contenu, c'est l'arrivée d'un mode New Game Plus qui permettra de commencer une nouvelle aventure tout en conservant l'ensemble des éléments déverrouillés au cours d'une partie précédente. Il sera également possible de rejouer les missions de son choix et de déverrouiller des couleurs alternatives pour les tenues symbiotiques de Peter. Enfin, du côté des nouveautés plus anecdotiques, Insomniac promet de nouvelles options pour le mode photo, avec une gestion du temps jour-nuit, de nouveaux stickers et un mode figurine. Le tout doit donc arriver le 7 mars prochain. On continue avec la news technologie. Donc ces derniers temps, le produit Apple Vision Pro fait polémique. En effet, certains utilisateurs rapportent que ce casque est trop lourd, inconfortable, leur provoque des maux de tête ou peut encore provoquer un éclatement des vaisseaux sanguins. Donc comme l'a rapporté The Verge, certains utilisateurs souffrent de maux de tête en portant l'appareil. D'autres ont remarqué qu'il leur creuse les joues et le nez à cause de son poids plus important à l'avant. Dans les cas extrêmes, ce casque qui oblige à utiliser ses yeux comme un dispositif de pointage peut entraîner des problèmes oculaires plus graves. En effet, il peut provoquer l'éclatement d'un vaisseau sanguin au niveau des yeux. Porter sur le nez un appareil pesant aussi lourd qu'un iPad Pro de 11 pouces entraîne forcément un certain inconfort. Un utilisateur a même écrit sur le subreddit Vision Pro que, je cite, « L'appareil est très lourd et inconfortable à porter, je ne peux pas imaginer l'utiliser pendant une période prolongée. » Voilà, quand ça avait été la folie à la sortie du truc, tout le monde s'était rué sur les magasins Apple. Mais bon, voilà, il y aura toujours des petites améliorations à faire. On va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on en aura trois. Une lundi 4 mars sur PC avec The Thaumaturge. Ensuite, pour mardi 5 mars, on aura sur PC, PS5 et Xbox Series la sortie du jeu Expeditions, a Mudrunner Game. Et enfin, pour mercredi 6 mars, on aura sur PC, PS5 et Xbox Series la sortie du jeu Berserk Boy.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.